amateur.
Il n'y a pas d'armes, l'art combat ou sert la cause prolétarienne.
Plein d'inardeur, noble.
Journal vivant, revue politique.
Construction, obéir à sa voix.
Ah oui, c'est un malade, hein, c'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire.
Imiter son silence.
Bonjour, bienvenue au Théâtre de la Gamelle sur Radio Canu, votre émission de théâtre radiophonique. Je suis Hervé et aujourd'hui, j'accueille Emmanuel Mehring et une partie de son équipe pour nous parler de Mes Défragments, un spectacle qui est en cours de création au sein du collectif interdisciplinaire, le CID. Alors, bonjour à nos invités d'aujourd'hui, Emmanuel Mehring.
Bonjour.
Bonjour Mathilde Eloi.
Bonjour.
Renaud Mathieu.
Bonjour.
Maxime Bozonnet.
Bonjour. Voilà,
et Thomas Rollin.
Bonjour.
Voilà, alors j'ai pas dit, donc Emmanuel Mehring est la metteuse en scène et chorégraphe de ce projet. Maxime, Renaud et Mathilde font partie du casting, des interprètes. Danseur et comédien, on y reviendra. Et Thomas est compositeur donc de la musique en particulier qu'on vient d'entendre. Alors, je vais vous laisser un peu la parole pour déjà un peu présenter quel est Emmanuel, quel est ce projet, d'où il vient, pourquoi m'aider, pourquoi.
Alors, ce projet qui s'intitule Mes Défragments et a démarré il y a un an et demi à peu près. Et l'idée c'était de s'interroger sur la construction sociale du monstre. Comment on en arrive à ce qu'une femme tue ses enfants et comment on laisse faire des choses pareilles. Et la figure de Médée était intéressante parce que elle est extrême. Et qu'elle permet de faire des échos, en fait, à ces drames qui se passent encore là aujourd'hui. Il y a encore des femmes qui, à un moment de leur vie, arrivent à pas envisager d'autres solutions que de tuer leurs enfants, de les emballer dans des sacs plastiques et de les mettre dans des congélateurs, par exemple. Mmh. Et du coup, l'idée c'était pas forcément de travailler sur un cas particulier, mais de trouver une figure qui permettait d'essayer, en tout cas, de comprendre le chemin et le parcours d'une femme qui en arrive à cette extrémité-là. Et du coup, m'aider permettait ça.
D'accord. Et donc dans ce que tu viens de nous dire, en fait, il y a le fait, il y a ce monstre, quoi. Parce oui. que je voulais revenir un peu là-dessus parce que j'ai vu que sur dans ton parcours, en fait, le monstre est très présent. La figure
peu,
du monstre oui, est très présent.
Dire que c'est un peu une obsession, oui.
Ouais. Donc c'est un projet que tu as initié.
Oui.
Que tu conduis depuis donc un peu plus d'un an maintenant, c'est
oui.
ça.
Voilà, sur m'aider spécifiquement. Mmh. Et concernant le monstre, j'ai commencé à travailler sur cette figure en 2004-2005, mmh. Et notamment autour de Richard III de Shakespeare.
Ouais.
Et son parcours à travers les trois pièces dans lesquelles il apparaît. Et voilà, et la même question revient, enfin, à laquelle j'ai absolument pas de réponse, mais qui est un constat de, en fait, le monstre ne se fait pas tout seul. Et le personnage en lui-même a les capacités d'être monstrueux, ça c'est pas du tout remis en question, mais il y a tout ce qui l'entoure, les personnages, les situations dans lesquelles il se retrouve, permettent à ce monstre d'exister pleinement et de se révéler au monde en fait. Et à un moment, il y a aucun personnage, que ce soit dans Richard III ou dans Médée, dans les pièces originales ou dans notre réécriture de Médée, qui arrête ce monstre-là. Le premier meurtre que Médée commet, elle dépèce son frère, qui est quand même pas rien plus. Faut quand même un peu y aller. Mais c'est ok. On laisse faire cette chose-là et on lui permet même de poursuivre. Donc ensuite, elle va ébouillanter l'oncle de Jason et ça va s'enchaîner jusqu'à égorger ses propres enfants. Absolument.
Mais du coup, oui, le parallèle que tu faisais hors antenne tout à l'heure avec le monde contemporain, qui, voilà, c'est que nous aussi, nous avons en ce moment quelques monstres que nous nourrissons au sein de notre société, et qui, voilà, ce que ça tendrait à nous dire, c'est que, du coup, ça nous arrange bien aussi dans un sens d'avoir des monstres, non, c'est ça ?
Ben complètement. En même temps, c'est eux aussi qui permettent de réguler et de dire où est la norme, puisque là, on sait que c'est hors norme. Assassiner ses enfants, assassiner son frère, on est d'accord, c'est hors norme, c'est pas à faire.
Tu es à Calage dans les rues de Paris, enfin voilà.
Tout à fait. Et du coup, on a tous une responsabilité de ça. Et c'est ce qui nous permet à nous de nous situer. Et une fois que cet acte a été accompli, il faut pas qu'il se reproduise. Et c'est là qu'on a quelque chose à faire et à dire. C'est d'empêcher que ça se reproduise. Mmh. En laissant faire les choses, c'est la porte ouverte aux monstres. Et c'est la porte ouverte à toutes les atrocités dans lesquelles on a régulièrement baigné et dans lesquelles on baigne en France particulièrement depuis janvier l'année dernière.
D'accord. Alors du coup, on va ouvrir un peu aussi, parce que donc c'est un projet que tu mènes au sein du collectif interdisciplinaire, oui. Mais ce n'est pas un projet à proprement parler du CID, parce que c'est un tournant assez dans la compagnie, si j'ai bien compris. C'est quelque chose de très différent de ce qui se faisait avant.
Ah oui, avant.
Qui se fera après, peut-être, j'en sais rien. Voilà, c'est une ère nouvelle. Alors, comment les interprètes qui sont là, je disais tout à l'heure, c'est des comédiens, des danseurs. Voilà, comment êtes-vous arrivé sur ce projet-là? Quel est brièvement votre parcours, peut-être, par rapport à ça?
Alors, moi, je suis arrivé sur le projet il y a presque un an. Mmh. C'est au-delà d'un coup de cœur.
Alors, toi, juste dis pour nos auditeurs un peu qui tu es.
Alors, je suis comédien danseur.
T'es Renaud.
Je suis Renaud. Tout à fait.
Voilà, c'est ça.
Et je suis arrivé donc sur le projet il y a un an. Donc, au-delà du coup de cœur artistique que j'ai eu pour Emmanuel, j'ai découvert Médée petit à petit. Et ça allait avec le travail qu'on faisait sur le plateau, dans un travail de laboratoire. J'avais très peu de versions en tête. Du coup, je me suis alimenté, j'ai lu beaucoup, et je suis arrivé peut-être à la lecture d'une vingtaine de versions différentes, avec des points de vue différents. Et c'est là que j'ai compris toute la dimension de fragments qu'Emmanuel voulait transmettre. Et je suis rentré un petit peu, voilà, les pieds joints dans ce projet, avec toute notre sensibilité qui nous est propre à chacun. Et par rapport à ça, c'est vrai qu'au niveau du travail, tous les jours, Emmanuel nous laisse une grande liberté en tant qu'interprète. Et c'est très, très important pour moi.
D'accord. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que chacun, en fait, vous, ce que vous me disiez, c'est que vous incarnez presque une facette de ce personnage, en tout cas, vous apportez chacun avec vous votre regard sur ce personnage-là et
c'est tout pas. Tout à fait. Et puis, Emmanuel nous laisse très très libre vis-à-vis de ça. Je pense qu'on a tous un petit imaginaire, en fait, qui est bien à nous et dont on ne parle pas nécessairement d'ailleurs entre nous. C'est-à-dire que ma vision, ce que j'aime, par exemple, dans le symbole de Médée, n'est pas nécessairement ce qu'aime Renaud, ce qu'aime Max, ce qu'aime Manu non plus, et c'est ça qui est assez fascinant. Moi, j'ai rejoint le projet plus tardivement parce que je suis là depuis à peu près début novembre, et j'avais rencontré Emmanuel en juillet dernier, il me semble, et c'est vrai que j'avais eu un vrai coup de cœur pour le projet dont elle me parlait, mais il n'était absolument pas question à l'époque que je le rejoigne. Mais c'est vrai qu'on avait eu toute une discussion autour, particulièrement de la féminité et du pouvoir féminin, qui moi m'avait énormément marqué. Cette réflexion sur le ventre de la femme qui finalement détient en elle ce pouvoir d'Eros et Thanatos, cette possibilité de donner la vie aussi bien que de l'enlever finalement. Et c'est vrai que ça m'avait complètement fascinée et ça a été un véritable plaisir de rejoindre le projet en novembre dernier.
Et alors pour toi, Max, un peu quelle est l'histoire ?
Moi, j'ai intégré le projet aussi tout récemment. Je suis arrivé un peu les mains dans les poches il y a un mois ou deux, à peu près en même temps que Mathilde. Et du coup, moi, je suis danseur et chorégraphe. Et a priori, ce qui m'intéressait ici, c'était essentiellement d'avoir un rapport au texte important. C'est un travail que j'ai rarement fait.
Parce que tu es surtout danseur.
Ouais. Mmh. Donc, du coup, le texte, ça passe souvent à l'as. Mais voilà, donc je me suis bien entendu avec toute l'équipe et je continue l'aventure avec eux.
D'accord, et bah du coup je vais aussi donner la parole à la cinquième personne qui est là parmi nous et qui est le compositeur Thomas Rollin. Donc toi par contre tu es là depuis très tôt dans ce projet si j'ai bien compris.
Depuis très tôt, pas vraiment depuis le début. C'est vrai que Emmanuel a fait pas mal de recherches de travail avant pour nous amener déjà une ébauche de projet et du coup elle m'a demandé de créer la musique qui est une première pour moi de travailler avec des danseurs et des comédiens. Ça a été un petit peu long à se mettre en place, en tout cas pour ma part, à savoir quelle méthode j'allais utiliser pour composer, les timbres d'instruments que j'allais utiliser, puis aussi surtout les moyens humains et techniques, savoir est-ce que il y a un musicien sur scène, plusieurs musiciens, pas du tout de musiciens, ce qui va vraiment un petit peu définir le style de musique qui va être diffusé pendant cette pièce.
Voilà. D'accord. Alors, mais du coup, pour prendre un peu les choses un peu plus concrètement, comment ça se déroule, enfin ce projet, enfin vous en êtes où là aussi précisément? Et
alors là on est au moment où les choses s'écrivent sur le plateau de façon plus ou moins définitive. Donc on a pris vraiment un an pour faire de la recherche sur des répétitions qui étaient ouvertes. Donc venait qui avait envie.
Qui se passait où?
Qui se passait alors dans différents lieux, notamment sur la MJC de Saint-Just, celle de Villeurbanne, mais également au 30 à Vienne, où on a été accueillis en résidence aussi. Et puis, bah, il y a des gens comme Renaud qui sont arrivés dès le début, ou Viviane aussi qui est sur le projet. Et puis, bah, des gens qui sont passés, qui sont venus essayer, qui la rencontre s'est faite ou pas. Et mais à chaque fois, ça apportait de la matière de quoi avancer en fait pour tout le monde, pour les interprètes, pour moi, pour Tom à la musique. Il y a aussi Cécile Machin qui est costumière et scénographe sur ce spectacle, qui du coup crée aussi vraiment des costumes spécifiques qui pourront être dansés, enfin dans lesquels on va pouvoir bouger. Donc elle fait des essais aussi pendant les répétitions. Mmh. Donc en fait voilà, tout le monde vient faire faire sa partie de recherche à lui, et ensuite on met en commun et ça construit petit à petit. Et là on est vraiment on est rentré dans la période en novembre où on construit. Donc voilà, d'accord, les choses sont fixées, la première partie du spectacle est montée.
Avec un objectif là moyen terme qui est
d'avoir
terminé.
Voilà, en avril.
En avril. Mm. Pour jouer
la saison prochaine.
D'accord.
Idéalement.
Voilà. Donc, et faire une présentation en avril déjà?
Oui.
On sait déjà
oui.
où?
Alors, vraisemblablement à la MJC de Villeurbanne.
Oui.
Qui nous accueille en résidence. Et voilà, on n'a pas la date exacte encore. Mais ce sera présent sur Facebook ou sur le site internet.
D'accord. Et donc, concrètement, à quoi ça ressemble cette première partie?
Honnêtement?
Ouais.
À rien qui a déjà été vu.
Ouais.
C'est très
ah compliqué. Ouais, rien du tout.
Ça ressemble.
Par personne, jamais, surtout.
Si, si, vraisemblablement par plein de gens. Et j'ai des inspirations assez fortes, quand même.
Comme qui?
Comme Yann Fabre, mm-hmm, par exemple. Bob Wilson également. Notamment pour le travail de lumière, qui sera créé par Gabriel de Nantes. Sur ce spectacle. Et c'est du théâtre physique. Donc c'est pas de la danse pure, c'est pas du théâtre pur non plus. Le corps et la parole sont mélangés. Tout est construit ensemble. Donc la musique par exemple est ajustée aux propositions des danseurs qui s'ajuste à la musique, qui se réajuste aux danseurs, etc. La lumière, c'est pareil, il y a un vrai elle fait sens, donc mmh. elle est construite en même temps que les chorégraphies, enfin voilà, en fait on essaye que toutes les choses soient mêlées les unes aux autres.
Et là, la proposition de l'éclairagiste dont tu parlais tout à l'heure, qui fait des mayday. Voilà. Celle-là, elle a été gardée ou?
Oui, tout à fait. Elle est gardée parce que, à un moment, il faut alléger un petit peu l'ambiance du spectacle.
Ouais.
Qui quand même est parsemée de morts.
C'est vrai que ça a l'air.
Et bon, à un moment, voilà, on a quand même un petit peu de légèreté qui arrive, de temps en temps.
Ok. Et ben, du coup, je vous propose qu'on passe à une première lecture, mmh. puisqu'on va avoir plusieurs extraits, à la fois du texte et de la musique. Et donc là, c'est le début, c'est ça.
C'est exactement, c'est l'ouverture de la pièce.
L'Inkipit.
Exact.
Ok, bah, je vous laisse la parole.
Médée est Médée. Médée n'est pas Médée. Médée a été et n'a pas été Médée. Médée va devenir Médée.
Médée
est dans Médée. Médée est hors de Médée. Médée comprend Médée. Médée est la digestion de Médée. Médée est la racine de Médée. Médée est l'ombre de Médée. Médée est la réponse à Médée. Médée est le reflet de Médée. Médée est une partie de Médée, non sa totalité. Médée est la poussière de Médée. Médée est la tombe de Médée. Médée est le sanctuaire. Médée est la mère de Médée. Médée est l'assassin de Médée. Médée est Jason. Médée n'est pas Euripide de Médée. Elle a chair de Médée. Médée est un mot pour dire Médée. Médée est une peste pour Médée. Médée maudit Médée. Médée crée Médée. Médée aime Médée. Médée rejette Médée. Médée dévore Médée. Médée enlace Médée. Médée étouffe Médée. Médée tue Médée. Médée dépèce son frère. Médée trahit son père. Médée ébouillante de l'oncle. Médée empoisonne sa rivale. Médée embrase le palais. Médée égorge ses enfants. Médée clame à travers le temps l'innocence défigurée. Réduisant à l'infamie la créatrice d'un monde, les mots ont été gravés dans la chair et ont déformé la vie de celle qui aurait pu être infanticide.
Bienvenue à ceux qui nous rejoignent en cours de route, le Théâtre de la Gamelle, émission de radiophonique, de théâtre radiophonique sur Radio Canu. Aujourd'hui, Emmanuel Mering et son équipe, au sein du collectif interdisciplinaire, nous parlent de Médée Fragments, dont on vient d'entendre un extrait de la musique et du texte. Alors, voilà, ce qui frappe, c'est justement ce dont on commençait un peu à parler, cet aspect polyphonique. Alors c'est étrange parce que tu disais tout à l'heure quand on en parlait un peu que ce n'était pas une création collective, mais par contre voilà, on parle beaucoup de la liberté de chaque interprète. Il y a quelque chose qui j'imagine aussi que suivant l'étape à laquelle les différents interprètes, il y en a 7 hein, ici il y en a 3 qui sont avec nous, mais sur scène il y a 7 personnes. Voilà, on peut les citer. Tous, donc en plus de Maxime Bozonnet, Mathilde Eloy et Renaud Mathieu, il y a Germain Ducrot, Benoît Ferrand, comment on dit ça ?
Guédic,
Mercier, et Viviane Mojica.
Oui.
Voilà, qui sont sur scène. Donc on a parlé de la scénographe costumière, de l'éclairagiste, du compositeur qui est là avec nous aussi aujourd'hui. Donc il y a une équipe assez large. Ici, il y a des amateurs, un chœur d'amateurs, c'est
oui.
ça ? Donc voilà, en fait, tout ça a l'air extrêmement complexe à un peu à mettre en. C'est une création collective ou c'est pas une création collective?
C'est une création collective que je dirige.
Ouais.
Donc il y a quand même comment dire, donc j'ai réécrit des textes, enfin j'ai écrit tout court des textes à partir du mythe, et ensuite le travail se fait avec chacun fait des propositions dans ses compétences. Donc je vais pas jouer les marionnettistes, même si je suis chorégraphe sur ce spectacle et metteur en scène. Les interprètes, c'est eux qui font leurs propositions et leur boulot d'interprète. À la musique, moi je suis incapable d'aligner deux notes, donc je parle des idées, des ambiances que je veux, de la direction dans laquelle j'ai envie d'aller. Tom me fait des propositions, on rééchange et on avance comme ça. Pour Gabriel qui est éclairagiste, c'est pareil, il arrive avec des propositions et on en discute. Et moi, je suis vraiment chargée de faire la mise en scène de ça, donc je supervise chaque discipline. Et je dis bah ouais, ça c'est ok, ça va dans la direction du texte, ça c'est non, ça c'est oui, etc.
Donc le texte c'est toi qui l'as signé.
Oui.
Et vous, par exemple là dans l'extrait qu'on a lu, vous, bon il y avait un texte que lisait Mathilde qui qui a l'air d'une comment dire d'une structure un peu plus travaillée, plus poétique que ce que enfin travaillée. Que je veux dire plus cisaillé en termes de parole que les autres qui étaient beaucoup plus de l'ordre de la parole enfin de l'oralité.
Oui, tout à fait.
Voilà. Donc quelle est l'origine de ces différents textes? C'est tout
Alors le texte que je lisais a été écrit par Emmanuel. Mmh. Les autres textes sont des créations des personnes qui les disent en fait tout simplement. Ils donnent chacun d'entre eux donne en fait sa vision de m'aider, plus ou moins.
Plus ou moins.
Moi, c'est le premier travail que Manu m'a demandé de faire quand j'ai commencé à travailler avec eux en atelier, et elle m'a simplement demandé si je me souvenais un petit peu de m'aider, du mythe, et de donner mon point de vue sur qui pouvait être cette femme. Voilà.
D'accord. Et alors, donc toi, Maxime, tu es danseur, principalement, enfin... Voilà, oui. De formation. Oui. C'est ton cas aussi, Renaud ?
Alors, je suis comédien et danseur. J'ai eu la possibilité de danser dans de nombreux spectacles de théâtre. Et du coup, j'ai toujours voulu moi mêler le corps et la voix. Mm-hmm. Donc, c'est un travail, moi, qui me correspond tout à fait. Et concernant donc tout le début, effectivement, on donne chacun notre propre version avec notre propre sensibilité. Et je dois avouer qu'au tout début du travail, effectivement, comme je disais tout à l'heure, avec toutes les lectures que j'en avais faites, j'étais complètement embrouillé. Je savais plus qui était qui allait où. Et en fait, je pense que c'est ça qui a donné aussi la richesse de mon discours au tout départ. Et quand je parlais de liberté, c'est ça, parce que je dis pas précisément à chaque fois les mêmes choses. Mmh. Je retrouve le propos de base. Mais en tout cas, ça peut changer quoi, d'une version à l'autre, et c'est ça qui est super intéressant quoi.
Ah oui, une ouverture à l'improvisation en fait là-dedans.
Oui.
Et c'est quelque chose qui se retrouve aussi dans le, parce que là du coup concrètement, j'étais curieux de savoir qu'est-ce qui se passe sur scène pendant qu'il y a ce chœur comme ça, ces différentes voix qui se mêlent et ces différents points de vue sur Médée qui finalement, et qui aussi du coup se concentrent en une seule à la fin. Qu'est-ce que corporellement il se passe quoi en fait?
Exactement pendant... ce que vous venez de dire en fait, c'est-à-dire qu'on va véritablement devenir un cœur, être des paroles fragmentées un petit peu et tous se regrouper pour véritablement figurer sur scène ce cœur antique avant que le spectacle ne commence véritablement. Voilà.
D'accord, mais c'est-à-dire un cœur qui du coup voilà, bouge à l'unisson, c'est ce genre.
Et assez compact en fait finalement, je pense que.
Mais un cœur chargé d'individus tous différents. Avec nos propres émotions, nos propres sensations.
Parce que du coup, sur cet extrait, le travail qui est demandé aux interprètes, c'est le même qui est demandé aux amateurs qui nous accompagnent à chaque session de représentation, en fait.
D'accord.
Donc eux-mêmes, d'après ce qu'ils auront pu glaner en répétition et puis de leur propre de leur propre connaissance du mythe, vont aussi proposer leur version. Et à ce moment-là, tout le monde est aligné en bord de scène et vient parler au spectateur, au reste de l'ensemble des spectateurs, de sa version. Donc, il y a des gens qui vont capter peut-être qu'une parole, d'autres qui vont réussir à en capter plusieurs, peut-être s'accrocher qu'à la version de Mathilde, mais chacun donne son point de vue, et il y a un rassemblement au centre du plateau pour finir le texte.
D'accord, mais donc sur cette partie-là, en priorité, enfin, il n'y a pas de... Parce que la question que je me pose, c'est vraiment la manière dont, bon, puisqu'il y a cet aspect théâtre physique, d'interdisciplinarité très forte, forcément. Et donc le rapport de la danse au texte, etc. Quel est
l'agencement?
C'est-à-dire que quelle est la circulation et surtout entre la parole et le corps et voilà, est-ce qu'on va dire est-ce que c'est découpé, c'est-à-dire que est-ce que majoritairement c'est parole et corps qui est-ce que ça passe de l'un à l'autre ou est-ce qu'ils coexistent ensemble? La parole elle-même, est-ce qu'elle est d'un... Enfin, c'est des questions un peu techniques, on va dire, mais c'est des questions qui m'intéressent. Est-ce que la parole elle-même est a quelque chose de la musique? Là, c'est quelque chose qui apparaît très fort aussi. Du coup, genre une question aussi pour Thomas derrière. Mais voilà, comment est-ce que ça circule tout ça?
Pour l'instant, dans l'extrait qui vient d'être lu, c'est assez minimaliste dans les corps. C'est assez simple. Il se passe peu de choses, et c'est assez naturel. On demande juste aux interprètes d'être eux-mêmes, et jusqu'à ce que le cœur s'unisse sur la fin du texte, on est juste en ligne de manière très simple, comme une vraie présentation pour un début de spectacle.
Mmh.
Voilà.
Et ensuite, ça va se mêler. On n'est pas encore à la fin de la création, mais a priori, il va y avoir aucun moment où le texte va être indépendant du corps, ou l'inverse. Les danseurs ont le droit de parler, en fait.
Oui, bien sûr.
Fréquemment.
Mais je veux dire de danser en même temps. Oui. Enfin, c'est-à-dire que oui.
Oui, et du coup le corps et le souffle et ce que l'effort va produire va influencer aussi le texte.
Mmh.
Donc l'idée c'est de pas du tout que les deux soient liés, que on ne sépare pas qu'on ne sépare pas du tout le texte du corps. Et il y a des moments où le texte sera enregistré, d'autres moments où il va être décalé. Il y a des dialogues, il y a des monologues aussi. Mmh. Enfin, l'idée c'est de travailler sur le fragment. Donc, il va y avoir des morceaux épars. J'allais dire un truc horrible.
Mais allez.
J'allais dire qu'il y avait des morceaux épars de texte et de corps, mais ça.
Ah oui. En fait, il y a un truc où je me disais, mais pourquoi fragments comme ça? Pourquoi des fragments?
Oui, voilà.
Bon, il y a cet aspect plus polyphonique, forcément. Très fragmentaire, mais du coup il y a quelque chose d'assez concret dans les corps.
Et puis
complètement dépecé.
Voilà, c'est pour ça qu'on va changer de casting à chaque représentation.
Ouais. Bon ben merci. C'est bien.
Non mais c'est vrai qu'aussi dans les corps, dans l'espace scénique, il y a aussi plusieurs choses qui se passent en même temps. Donc il peut y avoir des interprètes qui seront dans une partition chorégraphique et d'autres qui seront dans une partition de texte au même moment, et tout ça va se superposer.
Parce que effectivement aussi la question que je me pose là, tu parles des dialogues, mais il y a texte, on va dire il y a des différents statuts de texte différentes. Là on a entendu un texte qui est plutôt de, alors soit de la prise de parole monologique, soit de la poétique, etc., qui est donc plus encore un statut quasiment musical. Enfin voilà, est-ce qu'il y a des textes qui sont pour le coup plus dans l'ordre du dialogue, c'est-à-dire de l'ordre de l'action dramatique, et qui vont, où on a des personnages, par exemple Jason, Médée, en face à face, qui s'affrontent, et qui du coup agissent l'un sur l'autre, et dans ce cadre d'interaction-là, on se dit, bon, bah, a priori, la présence corporelle est différente de celle d'une présence dansée. Je sais pas si... Mmh. Et du coup, comment est-ce que ça fonctionne dans ces cas-là?
Il y a peu de moments comme ça.
Ouais.
Il y a très peu de moments comme ça, ouais. Oui. il y a un dialogue qu'on va pouvoir entendre tout à l'heure, mais il est presque comme s'ils arrivaient pas à se parler. Donc en fait, il y a pas vraiment d'interaction. Les dialogues produisent peu d'action.
D'accord.
En fait, globalement.
Donc on reste sur plutôt une parole, voilà. Paysage, moi j'ai une tendance à appeler ça une parole paysage, quoi, c'est-à-dire pas une parole.
C'est pas si narratif, ouais, en fait.
Mm. Oui.
Par contre, voilà, c'est vraiment des choses qui sont dites, qui ne racontent, enfin, qui disent, qui racontent pas. C'est pas, alors, pas forcément attends, très clair.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Non, c'est-à-dire qu'il y a une adresse dans cette parole, mais oui, c'est ce que disait Max, c'est pas de l'ordre du récit. C'est pas narratif. En fait.
Oui, d'accord. Bon, peut-être que parmi nos auditeurs, certains pourront nous écrire pour nous expliquer qu'est-ce que cela veut dire.
Non, mais quand elle dit que tu disais quoi, c'était quoi, ça dit mais ça ne raconte rien.
Oui. Non, c'est pas que ça raconte rien, mais ça ne raconte pas. Enfin.
Bah, ça fait état d'impression en fait. Ça fait état de sensation, mais il y a pas de.
Oui, c'est comme si on avait du pointillisme, quoi. Enfin, là, on a plusieurs choses.
Bah, du fragment, du coup.
Voilà, du fragment, ouais. Une espèce de patchwork. D'accord. Et attends, du coup, Thomas, à la musique, je me demandais un peu, oui, quel est le, comment est-ce que tu as abordé donc du coup cette création. Enfin, déjà, qu'est-ce que ça changeait d'avoir à dire, parce que tu disais que tu faisais ça rarement, d'avoir des danseurs et comédiens avec qui travailler. Et puis, est-ce quelle est l'approche, c'est plus du côté de l'accompagnement, c'est-à-dire de l'accompagnement de ce qui est en train de se passer, ou du côté du dialogue, c'est-à-dire de la différence et créer des contrepoints. Enfin, je sais pas trop.
Ça fait beaucoup de questions en même temps.
Oui, oui.
Pour mon petit cerveau, mais je vais y arriver. Alors déjà, comment j'ai abordé ça dans le flou. Total. Mmh. Et c'est pour ça qu'en fait j'ai pu me rendre disponible sur les résidences pour aller voir un petit peu ce qui se passait au niveau du mouvement, ce qui m'a inspiré un peu des timbres d'instruments, très important, le timbre de l'instrument.
Ouais.
On parlait avec Emmanuel, le choix de ces timbres, et du coup aussi pouvoir petit blocage.
Ouais, c'est pas de souci. Mais...
en fait, ce qui était vraiment très très compliqué au début, c'est d'avoir une idée, d'arriver à se projeter dans ce que ça allait pouvoir donner, aussi sur scène. Je parlais tout à l'heure de est-ce qu'il y a un musicien sur scène ou non.
Oui.
S'il y a un seul musicien, à quoi il sert ce musicien? Est-ce qu'il joue d'un seul instrument? Est-ce qu'il est là pour bidouiller sur son ordinateur? Donc du coup, est-ce que c'est pertinent d'avoir quelqu'un qui bidouille sur son ordinateur devant? Le fait qu'il n'y ait qu'un seul instrument, est-ce que c'est aussi pertinent d'avoir un seul timbre d'instrument du début à la fin du spectacle? Est-ce que ce timbre-là va pouvoir accompagner les différents états psychologiques de m'aider au cours des différents fragments? Jusqu'au moment où... Dernière résidence, il y a eu une petite lumière qui a fait que on s'est rendu compte que il fallait que ça soit assez, il y a des choses assez massives au niveau sonore, des choses un petit peu moins, et du coup le choix d'instrument a été fait en tant que tel, et donc le choix aussi du final de est-ce qu'il y aura un musicien ou pas sur scène a été fait. Il y en aura pas, puisque pour l'instant ça va être enregistré. Et c'est déjà en cours d'enregistrement, ce qu'on écoutera juste après.
D'accord. Et alors, donc, juste pour préciser un peu ma question, parce que j'avoue qu'elle était un peu difficile. Voilà, on a chaque acteur qui développe son propre discours sur Médée. Est-ce que toi aussi?
Oui. Je crois que je suis un peu dans le cas de Gabriel, qui est à la lumière. Je le répète, qui est là pour aider à faire que ça fasse un tout. Que tout soit bien lié, compréhensif, beau aussi, parce qu'il faut que ça soit beau, parce que bon, voilà. Et du coup, accompagner le mouvement, pas forcément, ça serait trop simple. de faire un bruit de ce qu'on veut sur un mouvement de bras ou machin. On aime les cassures. Emmanuel aime les cassures. On a par exemple à la fin, vous écouterez le dernier passage tout à l'heure de ce premier fragment de Médée qui initie une jeune fille et on a une danse plutôt lente avec une musique qui est très très fournie. Pareil au début, là-dedans, juste après cette danse de la sorcière qu'on a écoutée juste avant, on a la danse de la première Médée qui quelque part une naissance. J'accompagne cette naissance avec la musique, c'est une grosse montée, mais au final les gestes n'accompagnent pas forcément cette musique. On est dans cette cassure parfois un peu cinématographique, on est vraiment là-dedans des fois.
Dans du montage.
Ouais, vraiment.
D'accord. Et ben puisque maintenant on a annoncé ça avec force on a mis l'eau à la bouche de nos auditeurs, maintenant nous allons entendre ce dialogue. Deuxième extrait, et puis suivi d'une musique.
Je me souviens des jours de Colchide. Je me souviens de toi. Tes mains pour me protéger, la puissance dans mes veines, tes cheveux défaits, tes seins, ton ventre, ta toison. J'imaginais un animal. C'était toi que l'or couvrait, mais ce métal n'était pas ta richesse. Ce que j'ai rapporté avec moi, c'est l'or de ton ventre, Médée, ces enfants de ton peuple que tu m'as donné. Je me souviens de toi, tout le reste n'est qu'oubli.
Tu me chasses, tes pas perdent leur écho. Il n'y a plus rien dans mon ventre, tu n'es déjà plus là. Tu perds la toison en la mettant dans son enclave, en la cachant aux yeux du monde. Ne commets pas l'erreur de la force et du pouvoir qui corrompt. J'attends de voir.
Je me souviens d'avoir voulu me fondre en toi à l'exclusion d'une autre. Sans connaître, je savais que ma vie tiendrait dans tes mains. Ce fut mon unique combat, Médée, te laisser tenir ma vie. Le reste n'est qu'oubli. Tu es inquiète. Tu m'éloignes de toi. Tu refuses de prononcer les mots qui nous lieraient. Tu es si loin. Aurais-je bravé 10 mers que tu ne serais pas moins loin? Taureau, guerrier, dragon, tout cela n'est rien si tu te tais.
Tu ne comprends pas? C'est de toi qu'il faut que tu te protèges. L'espace qui nous sépare est un même monde. Arme un autre navire, embarque tous les héros sur les mers inconnues, dresse-toi de nouveau contre les taureaux, les guerriers, les dragons. Tu n'en sauras pas plus. Nous sommes formés à vivre dans l'égalité, Jason. Tu es moi, je suis toi, de chaque côté de la lame. Perce mon cœur. Je n'en serai pas moins l'assassin, ni toi la victime. Un jour, j'ai tenu ta vie entre mes mains et les guider vers la victoire. Un jour, ce sera à toi de décider si ma vie va se poursuivre ou s'achever de tes mains, de ta voix, de tes choix. Je vois ce qui nous attend. Tu me tues, Jason.
Ne crains rien.
Tu t'en vas dans un autre lit, tu en sers une autre. Il n'y a plus de place pour nos enfants, pour mon peuple.
Je vous protège. Mes bras sont assez larges. Pour toi, nos enfants, notre peuple et la nouvelle famille.
Désormais, nous irons sur les routes sans toi, traqués par ta nouvelle famille. Tu ne comprends pas.
Tu te trompes.
Si une autre te donne ce que tu possèdes déjà, il te faudra remplacer ce qui est ancien par ce qui est nouveau.
Le frère protégera le frère. Danse avec moi.
Nous verrons, Jason. Nous verrons.
Re-bienvenue, donc Théâtre de la Gamelle, toujours, émission radiophonique, mais des fragments. Alors, voilà, donc là on vient d'entendre un nouvel extrait, une nouvelle musique. On en parle depuis le début, c'est une création qui est interdisciplinaire, théâtre physique, très polyphonique. Voilà, c'est des choses qu'on voit, tu disais tout à l'heure que on a rarement vu ça, c'est des choses qu'on voit rarement. Quel est le... Comment ça se produit ici en France? Enfin, vous, pour le moment, vous êtes à la MJC de Villeurbanne, qui, vous êtes en création, mais quel est le, voilà, quelles sont les perspectives possibles pour ce genre de théâtre, sachant que la drague veut souvent qu'on rentre dans des cases.
Voilà. Donc clairement, cette création est suicidaire hein, en termes de production. Mais on a, au départ, on a, enfin, c'est quelque chose qu'on avait envie de faire et on se donne les moyens de le faire. Ça rentre dans aucune case, ouais, bah, tant pis. On va essayer quand même de faire notre boulot, du bon boulot, pour que ça puisse aller quelque part et être diffusé au maximum. Ensuite, on a décidé de passer par le chemin des concours, des appels à projets de jeunes créateurs, où il y en a pas mal, plutôt sur Paris. Et plutôt en Europe, assez peu sur Lyon, très clairement. Et du coup, voilà, on nous demande de présenter des extraits et on espère qu'à partir de ces concours et des extraits qui auront été présentés, des gens aient envie de nous voir poursuivre ce travail et nous donnent les moyens logistiques et éventuellement financiers de poursuivre.
Donc là, vous partez à l'assaut du monde, quoi. Parce que le paysage français en termes de culture, là, il s'annonce pas très bien.
Hein. Oui.
Laurent Wauquiez, tout ça, bon, mon avis. Hein. Je veux pas faire de politique hein, sur Radio Canus, ce serait mal vu, mais.
Clairement.
Voilà. Et donc, quels sont ces concours, par exemple?
Ben, il y a des concours de danse élargie, notamment là, il y en a un qui est important, qui est proposé par le Théâtre de la Ville.
Danse élargie.
Oui.
Oui, d'accord. Pas forcément avec des grands écarts, mais.
Voilà, non. Et souvent assez peu d'ailleurs, bizarrement.
Ah oui.
Ouais, c'est assez étrange, mais bon. Voilà. Chacun fait ses propositions, hein. Mais nous, on mettra quand même des grands écarts, parce que Maxime, il sait le faire, et que du coup, voilà, on espère que ça nous permettra de vendre le spectacle.
Toi, t'es le seul. Ah ben non, vous êtes deux déjà à avoir une formation de danseur.
Oui, mais moi, je fais pas grand écart. Hein.
D'accord.
Ouais. Germain aussi danse.
D'accord.
Voilà, les gens ont été un peu choisis sur ça. Il faut que chacun ait une spécialité pour que ça puisse représenter le spectacle et qu'il soit vendu au maximum. Non, danse élargie, en fait, c'est danse et autres arts pluridisciplinaires, en fait. Clairement, notre démarche aussi, mais qui en fait est une démarche assez évidente sur un plateau, c'est qu'on fait pas du théâtre sans corps.
Hein, on, évidemment.
Voilà, mais c'est plus ou moins accentué et plus ou moins volontaire comme démarche. Donc, dans notre cas, c'est volontaire et c'est clairement de la danse élargie ou du théâtre physique ou un spectacle vivant pluridisciplinaire avec de la danse et du théâtre.
D'accord. Et l'autre chose aussi sur laquelle je voulais revenir brièvement, c'est cette histoire de cœur d'amateur. Donc comment, quel sens ça a en fait pour en dehors bon d'un sens dramaturgique sur le cœur, mais par rapport à justement l'idée d'aller à travers, parce que du coup il y a cette espèce de situation paradoxale entre à la fois quelque chose qui du coup regarde beaucoup vers l'international. C'est interdisciplinaire, international, il y a plusieurs langues, le premier extrait tout à l'heure était en anglais. Et en même temps, du coup, il y a quelque chose de très local à travers ce cœur.
Bah, enfin, pour moi, c'est assez lié à ce qu'est ou ce que devrait être aussi le théâtre. C'est-à-dire qu'il a pas, enfin, il doit pouvoir parler, et être entendu par un maximum de personnes. Et du coup, c'est pour ça qu'à la fois j'ai choisi un mythe qui est connu soit directement, soit par équivalence dans le monde entier. C'était ça aussi le choix d'un mythe. Et ensuite de resserrer sur quelque chose de, oui, peut-être de plus local et de plus impliquant individuellement. Parce que les membres amateurs du chœur auront eu quelques répétitions avec nous. mais assez peu. Et ce qui m'intéresse, ça va être vraiment spécifiquement leur avis sur le mythe, leur façon de bouger à eux aussi. Il s'agit pas de faire des gens, des danseurs ou des comédiens, mais c'est de venir avec avec tout ce qui se dégage de nous en fait, et de pouvoir le soumettre à un autre regard.
D'accord. Et ils font quoi du coup le chœur?
La même chose que les interprètes.
Tout pareil.
Tout pareil.
D'accord.
Sauf que... Mais ils sont accompagnés à chaque fois par les interprètes.
Voilà. C'est là où nous, on a nos partitions qui sont écrites et qu'on connaît bien. Mmh. Et comme on est plusieurs, on pourra transmettre par petits groupes.
Donc c'est par mimétisme, en fait, ils font la même chose, un peu, c'est ça, quoi.
Oui, plus ou moins, il y aura des explications, et puis après, ils ont des yeux, ils pourront regarder ce qui se passe.
Ils ont des yeux, pas tous. C'est hyper discriminant,
c'est vrai. C'est vrai.
On a déjà expérimenté ça, courant novembre. Ouais. Et ça se fait plutôt bien. Mm. Et se dégage vraiment dans quelque chose, dans un travail collectif, dans une proposition collective, des individualités. Mmh. Et c'est ça qui m'intéresse.
Intéressant. Tu voulais dire
Non, je voulais dire pareil.
D'accord, super. Et là, donc, vous avez déjà un groupe constitué sur Villeurbanne?
On a quelques personnes qui, du coup, font vraiment partie du travail de recherche et d'avancer. Mais l'idée, c'est qu'à chaque représentation ou série de représentations, on fasse appel à des personnes différentes.
Vu qu'ils sont éparpillés sur scène à la fin.
Voilà, morts, avec ouais. Il y a quand même un danger de mort, donc faut quand même le savoir. Mais on espère que malgré ça, des gens auront envie de vivre
l'expérience.
Quelque chose, l'expérience.
Bah oui.
Avant de voir leurs membres dispersés sur le plateau.
D'accord. Bon, bah, nous allons passer à un dernier extrait pour finir sur cette note joyeuse.
Tu sais ce qu'il m'a fallu à moi de courage pour accomplir tous ces meurtres? Tu sais ce qu'il m'en a coûté de tenir le fer, de sentir la ville équitée, tous. Tu sais ce qu'il m'a fallu vaincre pour que la lame ne tremble pas sous leur gorge. Tu sais ce qu'il en est, toi, de soutenir le regard de l'aîné qui a compris ce qui allait lui arriver, ce que sa mère devait faire. Je n'ai que deux mains, Jason, deux mains. Une pour tenir le corps du petit, la seconde pour la lame. Que crois-tu qu'il ait fait, notre fils? Tu comprends ça, Jason? Il m'a aidé, notre fils. Il a retenu ses cris et le corps de son frère. Il est resté pour accompagner le petit qui avait si peur. Et lorsque la vie l'a quitté, nous étions ensemble, fils et mère. Où étais-tu, Jason? Après que la vie du petit se soit éteinte, l'aîné m'a serré dans ses bras, tellement fort, Jason, pour que je ne faiblisse pas. Il m'a serré dans ses bras, sachant la lame entre nous. Tu peux comprendre ça, toi, qui t'es toujours tenu dans l'ombre, toi qui as armé mon bras chaque fois que tu en avais besoin, qui ne t'es porté au devant d'aucun combat? Le peux-tu? Maintenant, je suis Médée.
Le père.
Trahi. Maintenant, je suis le monstre,
le frère,
tel que je me reconnais. Tel que le monde m'a voulu, tel que tu m'as fait.
La rivale, empoisonnée.
Je porte deux et
les
mille morts.
Les
miens sont ceux de tous, tous, sans conscience, rigueur. Ces sauvages dont la main est incapable de tenir le fer, c'est à moi qu'ils l'ont fait tenir.
Dragon.
Mon ventre fut un monde auquel j'ai infligé la dévastation. Je suis ces sauvages, ces criminels qui me tuent en portant atteinte à mes fils. Je suis ta main, Jason, qui t'achève en te prenant mes fils. Je suis ce que tu ne peux pas être. Je suis toi, Jason.
Merci. Nous allons passer maintenant à la chronique hebdomadaire de Thomas Lynn.
Cette semaine, j'ai été voir Bienvenue dans le Nouveau Siècle, Dr. Freud de l'écrivaine mexicaine Sabina Berman, par la compagnie 3-8 au Nouveau Théâtre du 8e. La pièce raconte un des premiers cas du docteur Freud, Dora, dont la thérapie a complètement foiré pour le coup. Il s'agit d'une mise en scène de Guy Néjon avec Vincent Badi, Alizé Bingolu, Anne de Boissy, Emmanuel de Montsant et Jonathan Perroni. Et donc voilà, bienvenue dans le nouveau siècle docteur Freud en 3 minutes.
Entrez.
Bonjour docteur, j'ai un problème, un vrai problème.
Normal, je vous en prie, allons chez vous sur le divan.
C'est ma belle-mère, je crois qu'elle trompe mon père.
Et cela vous procure un sentiment de castration?
Hein? Non, j'aimerais bien, mais il faut encore que j'attende que le traitement hormonal fasse l'effet avant de faire l'opération. Non, c'est qu'elle-même étant une cougar adepte du double anal, elle s'est inscrite sur Jackie et Michel, mais tout ce qu'elle a pu trouver, c'est un urodentrophile. Ce qui fait qu'il s'entend mieux avec mon chien qu'avec elle. Or, Titus n'a pas du tout la taille adaptée à la circonférence.
Mais vous êtes tout à fait normal. Suivant. Entrez.
Bonjour docteur, j'ai un vrai problème.
Normal, je vous en prie, allons chez vous sur le divan.
C'est ce foutu SMS, je mets quoi? Bis, point, Beko? C'est trop familier Beko, ça fait je te roulerai bien une pelle, mais il vaut mieux qu'on reste amis. Mais si je mets je t'embrasse, on dirait que je parle à ma mère. Baiser, c'est trop direct. Mais si je mets baiser avec un S et sans point, elle va penser que je voulais mettre baiser sans S et c'est trop direct et en plus ça fait pas assumer. Kiss, c'est hors de question. Je t'embrasse, ça aurait pu le faire, mais il aurait fallu que ce soit dans un message et que je lui aurais envoyé le soir même. Or ça fait 8h52 minutes et dans 8
minutes... Suivant. Entrez.
Hello, je m'appelle Dora, et lui, c'est Babouche. J'ai besoin de ton aide.
Normal, je vous en prie. Allons chez vous sur le divan.
Il faut que tu te mettes debout pour sauter. Stand up. On a chippé l'étoile. Qui a chippé l'étoile? À qui fait-on appel lorsqu'on ne sait pas quel chemin il faut prendre? À la carte, mais oui. Il faut que tu dises carte. Je crois qu'il faut que tu répètes. Dis carte. Répète après moi. Grand lac, montagne, château dans les nuages, Grand lac, montagne, château dans les
Ah, je pense que Foufou les tire qu'on a follé votre chaîne Italia et qu'ainsi c'est cela l'étoile. Vous souffrez d'un complexe d'Oedipe inversé matérialisé dans votre petit singe. Le grand lac, c'est vos sécrétions et le château dans les nuages et l'orgasme. Quant à la montagne, c'est un sexe masculin, pas de doute. En somme, fou ça fait amphi, que l'on fou viole, que l'on fou pénètre. Et cette carte indique la marche à suivre pour se faire. Qu'en dites fou?
Allez, pouet pouet, aide-moi à réveiller la baleine endormie. Dis pouet pouet. Very good, thank you, pouet pouet. We did it, c'est gagné, we did it, hurrah. We did it, c'est gagné, we did it.
Suivant.
Et voilà, c'était donc Bienvenue dans le nouveau siècle, Dr Freud en 3 minutes. Vous pourrez voir la pièce dont ceci est inspiré, de loin je dois l'admettre, au NTH8 ce soir à 20h et samedi et dimanche à 17h. Je tiens à remercier grandement l'équipe du CID pour sa participation à cette chronique. Bien à vous et tchuss.
Merci Thomas, merci à tout le monde, merci Fata Boudia à la technique, merci Maxime, merci Mathilde, merci Renaud, merci Manu, merci Thomas aussi compositeur, l'équipe du CID, donc pour l'équipe de Médée Fragments, c'était le Théâtre de la Gamelle, votre émission hebdomadaire de théâtre radiophonique.
Il était sur son char.
Amateur.
Il n'y a pas d'art neutre, combat ou sert la cause prolétarienne.
Plein d'une ardeur noble.
Journal vivant. Revue politique.
Construction. Obéir à sa voix.
Ah oui, c'est un malade, hein. C'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire.
Imiter son silence.